Paysages vibratoires. L'émission de poésie, un habit de musique. Un moment radiophonique sensible et jubilatoire proposé par CFM Radio. Bonsoir, bonsoir, ravi de vous retrouver comme tous les mardis. Vous savez, depuis septembre, on égrène comme ça au fil des semaines, tous les mardis soirs, nos poèmes divers et variés. Mais je ne suis pas seul, bien sûr, toujours accompagné avec une équipe qui tourne et vient rendre visite les studios de CFM. Ce soir, j'ai la joie de recevoir Pierrette Robert et Alain Andrieux. Bonsoir, messieurs, dames.
Bonsoir.
Je pense qu'il y a une jovialité printanière qui promet une très bonne émission.
Estivale même.
Estivale, oui, absolument. Déjà, au niveau des chaleurs, nous y sommes. Mais moi, je reste dans le printemps, parce que je suis attaché à mes haïkus de printemps. Voilà, la semaine dernière, c'était des haïkus qui tournaient autour de la grenouille, essentiellement. Aujourd'hui, c'est un peu plus brumeux. Jour de brume. Les nymphes du ciel auraient-elles le vague à l'âme ? Kobayashi Issa. Sur le gazon languissamment retombe la brume de chaleur. Natsume Soseki. Dans la brume de printemps, le vol blanc d'un insecte au nom inconnu, Yosabuzon. Dans les brumes de chaleur, quelques trous laissés par le bâton aller au temple, Kobayashi Issa. Douceur de la brise. Dans le vert de mille collines, un temple isolé, Masaoka Shiki. Pluie de printemps. Au portail, le canard clopine. Kobayashi Issa. Allez, premier titre de la soirée, je vous propose Gilbert Lafaye, La tête ailleurs.
J'ai la tête ailleurs, je suis pas meilleur ni pire qu'à 20 ans. Je suis bien le même qui te dit je t'aime, mais de temps en temps. Je suis dans la lune, couché dans les dunes ou les pieds dans l'eau. Certains jours de fête, il y a dans ma tête un petit vélo. J'ai vécu d'eau fraîche, de pommes et de pêche, dormi comme un roi. Construit des cabanes, adoré peau d'âne et Robin des Bois. J'ai dit des bêtises, porté des valises, fait tous les boulots. Donné ma parole, perdu la boussole et bu au goulot. J'ai la tête ailleurs, je suis pas meilleur ni pire qu'à 20 ans. Je suis bien le même qui te dit je t'aime, mais de temps en temps. Un oiseau se pose, il y a quelque chose, un air de lilas. Je rêve en plein jour au coin du faubourg, je ne suis plus là. J'ai couru le monde, les îles de la sonde et les pays froids. Découvert mon âme, le parfum des femmes et les draps de soie. J'ai pris quelques tasses, mangé des limaces, appris à nager. La vraie vie me saoule, je suis dans la foule comme un étranger. J'ai la tête ailleurs, je suis pas meilleur ni pire qu'à 20 ans. J'ai aimé la mer, l'ocre et l'outre-mer, le sable et le vent. Marcher dans les ronces, chercher des réponses au bord du chaos. J'ai vu le Népal, le ciel du Bengale et Curaçao. Je suis dans la lune, couché dans les dunes ou les pieds dans l'eau. Certains jours de fête, il y a dans ma tête un petit vélo. J'ai fait le voyage des gens de mon âge, plus d'un demi-tour. Et j'ai sur la langue comme un goût de mangue, une envie d'amour. Et j'ai sur la langue comme un goût de mangue, une envie d'amour.
La tête ailleurs, Gilbert Lafaye. Eh bien, je pense que nous avons tous la tête ailleurs et parfois, effectivement, on a un petit vélo dans le cerveau. Mais pour la poésie, pour l'expression. Voilà, bon, eh bien alors, je me tourne vers toi, Pierrette. Qu'est-ce que tu nous proposes ce soir?
Bah écoute, on va continuer sur le thème de l'amour. En fin de compte, c'est un thème de prédilection. Alors, je vais parler un tout petit peu de Louis Aragon. Je pense que tout le monde le connaît, mais bon, on va quand même faire un petit rappel biographique. C'est un écrivain, romancier, poète français, qui est né en 1897, déjà. Après avoir participé au mouvement Dada, il devient l'un des principaux créateurs du mouvement surréaliste, avec d'autres poètes comme Breton et Luart. C'est aussi à ce moment qu'il rejoint le Parti communiste français. Aragon, quelques années plus tard, s'éloignera du soutien porté à l'URSS à la suite de la révélation des crimes du stalinisme. Sa poésie est inspirée par l'amour qu'il voue à son épouse, Elsa Triolet, elle-même écrivaine importante du début du XXe. Aragon portera toute sa vie la blessure de ne pas avoir été reconnu par son père, Louis Andrieux, sa mère le faisant passer pour son parrain. Aragon, c'est aussi le poète de la résistance au nazisme, au même titre que Robert Desnos, Éluard, Jean Prévost, Jean-Pierre Rosnay. C'est à la mort d'Elsa Triolet, en 1970, ça n'est pas très vieux, qu'Aragon affiche son homosexualité. Roger Nimier disait à ce propos, « C'est le seul homme capable d'assister à une réunion du comité central du Parti communiste français, un smoking rose. » Louis Aragon meurt le 24 décembre 1982. Il est inhumé dans le parc du Moulin de Villeneuve, aux côtés d'Elsa Triolet. Alors bien sûr, j'ai choisi des textes écrits pour Elsa. J'ai choisi d'abord les mains d'Elsa. « Donne-moi tes mains pour l'inquiétude. Donne-moi tes mains dont j'ai tant rêvé dans ma solitude. » Donne-moi tes mains que je sois sauvée lorsque je les prends à mon propre piège, de pomme et de peur, de hâte et d'émoi. Lorsque je les prends comme une eau de neige qui fuit de partout dans mes mains à moi. Sauras-tu jamais ce qui me traverse, qui me bouleverse et qui m'envahit? Sauras-tu jamais ce qui me transperce, ce que j'ai trahi quand j'ai tressailli? Ce que dit ainsi le profond langage, ce parler muet de sens animaux, sans bouche et sans yeux, miroir sans image, ce frémir d'aimer qui n'a pas de mots. Sauras-tu jamais ce que les doigts pensent d'une proie entre eux un instant tenu? Sauras-tu jamais ce que leur silence, un éclair, aura connu d'inconnu? Donne-moi tes mains pour que mon cœur s'y forme, s'y taise le monde au moins un moment. Donne-moi tes mains que mon âme y dorme, que mon âme y dorme éternellement.
Très beau, ouais, bien sûr. Alors Aragon, bien sûr, qui a été chanté énormément par Jean Ferrat.
Brassens, voilà. Et tant d'autres. Hein.
Oui, Brassens, ouais, effectivement. Aussi, oui. Voilà, c'est sûr, un smoking rose à ceux qui voyaient rouge, ça dénote un petit peu, mais oui, voilà, ouais. Ben c'est toute la fantaisie du poète et puis sa propre nature qui s'exprime. Merci beaucoup. Allez, on enchaîne avec Alain.
Alors, je vous propose de découvrir le deuxième recueil de Marc Guimot, La poésie personne n'en lit. L'auteur aborde comme un flibustier le navire tranquille de la poésie, manifeste, coup de gueule, farce ou attrape, à vous de juger. La poésie, personne n'en lit. Si l'on veut ramener la poésie au grand public, si l'on veut que les gens normaux lisent de la poésie, on devrait vendre la poésie au même prix que les grands parfums, et avec le même marketing et la même simulation érotique. Pourquoi ? Parce que vous savez que tout est une question d'image, et qu'un produit cher est fascinant, même s'il est nul, et se vend bien, même s'il est nul. Le nul se vend bien. Si le marketing n'est pas nul, la poésie ne fait pas triper les foules, ne fait triper que dans un cercle restreint. À la limite, Baudelaire peut encore faire triper n'importe qui, toute classe sociale confondue, vieux et jeune, étudiant et trader, faillot de service, chômeur et huissier, casanier et footballeur, moderne et pressé, lecteur ou phobique. Il n'a jamais autant fait triper durant sa vie. J'aimerais savoir s'il serait millionnaire aujourd'hui. Le nombre de ventes des fleurs du mal et le nombre de zéros sur le chèque qu'il ne pourra jamais toucher. on devait tout reverser aux poètes d'aujourd'hui pour soulager un peu Pôle emploi et la fonction publique. Est-ce que ça serait assez pour vivre ? Pour bannir le rouge des fins de mois, pour ne pas retourner vivre chez sa mère ? Je ne sais pas. Mais si on pouvait prendre exemple sur le parfum, se mettre de la poésie sur le corps, de la poésie dans le cou, de la poésie dans les phéromones, de la poésie pour plaire, pour capter, pour fasciner. Si on pouvait afficher la poésie sur des panneaux de 4 mètres par 3, avec des seuils de nudité calculés. Si on faisait ça pendant 6 mois, dans tous les métros, dans toutes les rues. Si on martèle le message jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de message, et qu'il ne reste plus que le messager hypnotique. Si on s'autorisait des passages à la télé-réalité. Si on payait une star pour qu'elle fasse semblant de lire de la poésie. Et si elle disait qu'elle la lit vraiment, sans sauter de page, même pas en diagonale, elle dit ça les yeux dans les yeux du public en haleine. Si on pouvait payer 90 euros un recueil de poèmes avec une couverture hyper brillante. Si on faisait ça dans toutes les librairies suicidaires, alors le poète retrouverait une sexualité de masse sans passer par la mort. Au lieu de vivoter dans des sectes, au lieu que les poètes soient lus par des poètes, au lieu que je ne sois pas au courant de l'édition d'un chef-d'œuvre quelque part en France, et que certains meurent un peu poussés avant que je n'aie pris connaissance de leur existence, certains à qui j'aurais voulu payer une bière, comme Jean-Luc Le Ténia.
Merci Alain, oula, très pertinent et très à propos, je trouve ça super. Quoi. Le nul se vend bien, effectivement favorisons la poésie. Ouais, c'est super, j'ai adoré. Quoi.
Ça ferait du bien,
ça ferait du bien, voilà. Après, voilà.
Peu de poésie sur le coup, là.
Un peu de poésie sur le coup, et puis voilà, qui, pas simplement un parfum poétique, que simplement pour les cercles d'initiés, mais pour tout le monde, aux heures de grande écoute, etc. Enfin, voilà, très intéressant ce passage. Je te remercie. Allez, c'est la pause musicale avec Jacques Dutronc. On nous cache tout, on nous dit rien, tu vois.
On nous dit rien. Plus on apprend, plus on ne sait rien. On nous informe vraiment sur rien. Adam avait-il un nombril ? On nous cache tout, on nous dit rien. Socrate a-t-il vu sa ciguë ? L'aventure est-elle au coin de la rue ? On nous cache tout, on nous dit rien. La vérité sur Dagobert, quel était son manager? On nous cache tout, on nous dit rien. Plus on apprend, plus on ne sait rien. On nous informe vraiment sur rien. La vérité sur la palisse, quand c'est rugueux, c'est pas lisse. On nous cache tout, on nous dit rien. Et l'affaire du masque de fer, est-ce que Louis XIV était son frère? On nous cache tout, on nous dit rien. La vérité sur l'obélisque, a-t-il été déclaré au fisc? On nous cache tout, on nous dit rien. Plus on apprend, plus on ne sait rien. Savoir pourquoi Napoléon mettait la main dans son giron. On nous cache tout, on nous dit rien. L'affaire Trucuchet, l'affaire Machin, dont on ne retrouve pas l'assassin. On nous cache tout, on nous dit rien. On nous cache cachis, cache tampon. Colin Maillard et Tartampion, ce sont les rois de l'information. On nous dit rien. Plus on apprend, plus on ne sait rien. On nous informe vraiment sur rien.
« Vous êtes sur CFM Radio 90.2 à l'écoute de l'émission Paysage vibratoire, qui est une émission qui aborde la poésie, toutes les poésies. Quant à moi, ce soir, je veux vous parler de Henri Michaud. Henri Michaud, 1899-1984. Ah là, c'est un personnage, Henri Michaud. Il a dit d'ailleurs ceci: les genres littéraires, a-t-il écrit, sont des ennemis qui ne vous ratent pas si vous les avez ratés, vous, au premier coup. Lui ne les a pas ratés et livre, né de voyages en Asie et en Amérique du Sud, exploration angoissée du monde intérieur, interrogation sur la peinture, expérience de la mescaline et d'autres drogues hallucinogènes, donc ce monsieur a fait des expériences de l'esprit. Ces textes échappent à toute classification traditionnelle. Ils sont plongés dans l'imaginaire, invention d'un univers insolite et fantastique, épreuve et exorcisme, pour reprendre les mots d'un de ses titres, quête de l'être dans l'absolu, désespoir et humour. Œuvre unique dans son temps, qui complète une importante œuvre picturale. Voilà, puisqu'il s'adonnait aussi aux arts graphiques. Alors moi, je vais vous lire les travaux de Sisyphe. La nuit est un grand espace cubique, résistant, extrêmement résistant, entassement de murs et en tous sens, qui vous limitent, qui veulent vous limiter, ce qu'il ne faut pas accepter. Moi, je n'en sors pas. Que d'obstacles pourtant j'ai déjà renversés. Que de murs bousculés. Mais il en reste. Oh, pour ça, il en reste. En ce moment, je fais surtout la guerre des plafonds. Les voûtes dures qui se forment au-dessus de moi, car ils s'en présentent, je les martèle, je les pilonne, je les fais sauter, éclater, crever. Il s'en trouve toujours d'autres par derrière. De mon énorme marteau, jamais fatigué, je leur assène des coups à assommer un mammouth, s'il s'en trouvait encore un. Et là, paf! Mais il ne s'y rencontre que voûte, voûte têtue, cependant qu'il faut qu'elle se brise et s'abatte. Il s'agit ensuite de désencombrer ce lieu conquis, des débris qui masquent ce qui vient au-delà, que je ne devine d'ailleurs que trop, car il m'est évident qu'il y a encore une voûte plus loin, plus haut, qu'il faudra abattre aussi. Ce qui est dur sous moi ne me gêne pas moins, obstacle que je ne dois supporter, matière du même immense bloc détesté où j'ai été mis à vivre. À coups de pique, je l'éventre. Puis j'éventre le suivant. De cave en cave, je descends toujours crevant les voûtes, arrachant les étés. Je descends imperturbable, infatigué par la découverte de caves sans fin dont il y a un nombre que depuis longtemps j'ai cessé de compter. Je creuse toujours jusqu'à ce que, un travail immense fait, je sois obligé de remonter pour me rendre compte de la direction suivie, car on finit par creuser en colimaçon. Mais arrivé là-haut, je suis pressé de redescendre, appelé par l'immensité des réduits à défoncer qui m'attendent. Je descends sans faire attention à rien, en enjambée de géants. Je descends des marches comme celles des siècles. Et enfin, au-delà des marches, je me précipite dans le gouffre de mes fouilles, plus vite, plus vite, plus désordonnément, jusqu'à buter sur l'obstacle final, momentanément final, et je me remets à déblayer avec une fureur nouvelle, à déblayer, creusant dans la masse des murs qui n'en finissent pas et qui m'empêchent de partir du bon pied. Mais la situation un jour se présentera différente, peut-être. Allez, on enchaîne avec Pierrette.
C'est associé à tes insomnies.
Je pense que je l'ai lu, n'est-ce pas, hier soir. Ça se sent.
Ça m'a interpellé. Alors écoute, on va partir sur Elsa au miroir. Je crois que c'est quand même un peu triste aussi, mais bon, c'est toujours associé à l'amour d'Aragon pour Elsa. C'était au beau milieu de notre tragédie, et pendant un long jour assise à son miroir, elle peignait ses cheveux d'or. Je croyais voir ses patientes mains calmer un incendie. C'était au beau milieu de notre tragédie. Et pendant un long jour assise à son miroir, elle peignait ses cheveux d'or et j'aurais dit, c'était au beau milieu de notre tragédie, qu'elle jouait un air de harpe sans y croire, pendant tout ce long jour, assise à son miroir. Elle peignait ses cheveux d'or, et j'aurais dit qu'elle martyrisait à plaisir sa mémoire. Pendant tout ce long jour, assise à son miroir, à ranimer les fleurs sans fin de l'incendie, sans dire ce qu'une autre à sa place aurait dit. Elle martyrisait à plaisir sa mémoire, c'était au beau milieu de notre tragédie, le monde ressemblait à ce miroir maudit. Le peigne partageait les feux de cette moire, et ces feux éclairaient les coins de ma mémoire. C'était un beau milieu de notre tragédie, comme dans la semaine est assis le jeudi. Et pendant un jour, assise à sa mémoire, elle voyait au loin mourir dans son miroir, un à un, les acteurs de notre tragédie, et qui sont les meilleurs de ce monde maudit. Et vous savez leurs noms, sans que je les ai dit, et que signifient les flammes des longs soirs, et ses cheveux dorés quand elle vient s'asseoir, et peignir, sans rien dire, un reflet d'incendie. Extrait des yeux d'Elsa, 1942.
Merci beaucoup, Pierrette. Ça t'arrive d'être assise à ton miroir et de t'évader poétiquement?
Oui. J'ai même écrit un texte à ce propos, justement, Reflet de l'âme, tu sais, quand on se contemple dans le miroir et qu'on regarde surtout la profondeur du regard et ce qu'il peut laisser transparaître. Bah, pas toujours drôle, du reste.
Pas toujours drôle. Fois, c'est surprenant, notre propre regard. Oui, on absolument. Se dit, oh, mince, je suis comme ça. C'est...
Oui, oui. Oula, ouais. Oui. Il est même parfois inquiétant.
Oui, des fois, voilà. Dis, oh. On pensait que tout était lumineux, mais voilà, il y a un coin de ténèbres,
oui.
Voilà,
il y a des zones d'ombre.
Bloqué au coin de l'œil, il est là.
Absolument.
Oui, oui, ben voilà, nous sommes de pâte humaine.
Voilà, c'est ça, et puis ça s'anime, je veux dire, en fonction d'événements, de ce qui t'arrive dans ta journée, mais quand tu poses effectivement comme ça ton regard dans le miroir, c'est quelquefois étrange comme ressenti.
Et ça dépend aussi qui on a rencontré, ce qu'on a fait, et quelle énergie on a captée.
Voilà, oui, voilà. Également.
Mais bon, Alain est toujours serein, n'est-ce pas?
Voilà. Oui, toujours. Et d'autant plus que là, je vais vous parler de Marlène Tissot, qui est née le 10 juin 1971 près de Reims. C'est une romancière et poétesse française. Ses premiers recueils de poésie paraissent en 2010 avec Nos parcelles de terrain très vagues et Celui qui préférait respirer le parfum de fleurs. Son écriture poétique est fine, sensible et très belle. Et là, je vous propose un extrait de son dernier recueil, L'âme de fond, aux éditions de la Boucherie littéraire. L'hiver a emprisonné ton absence dans sa glace. Rien ne bougeait. Le silence neigeait, lourd et lent. Nos sourires fragiles comme la surface d'un lac gelé sous des pas imprudents. La sensation lancinante de devenir givré. Verbiage des moineaux derrière les volets clos. Matin de printemps, 5h30. Ton absence fait trop de bruit, il manque ta voix. Démêler les filets, sortir mon cœur de sa léthargie, il est temps de te réinventer, de larguer les amarres. Remonter le temps comme on grimpe à une échelle boiteuse. Là-haut, aucune lune à décrocher, les étoiles éternuent. Ta poussière est poivrée. J'empoche boussole et compas, enfile un vieux ciré et mets les voiles pour une expédition à durée indéterminée sur les flots des souvenirs de toi. Un voyage immobile ne suffira pas à écoper ma peine. Je dois partir vraiment, voguer, dériver, et tant pis pour les tempêtes. Partir à ta recherche ou peut-être à la mienne. Il y a si longtemps que je me suis perdu de vue. La réalité de mes contours comme estompée. Ce drôle d'habit de chair me laisse que presque nu. J'existe sans exister tout à fait, comme si la vie ne me tenait plus dans ses bras. J'aimerais fleurir de nouveau en marchant dans tes pas, reprendre forme humaine, renaître de tes cendres. Tes cheveux devenus blancs du jour au lendemain, tout était blanc, le ciel, les rues de neige, la chambre d'hôpital, les draps, les voix, les murs, tes regards qui se posaient sur nous sans parvenir à nous voir vraiment. Nous étions tes fantômes. la vie et la mort jouaient à échanger leurs costumes, le temps du dernière farce. Il pleuvait le jour où tu es parti. La mer débordait de nos cœurs et cognait à la fenêtre de nos yeux. Pourtant, je n'ai pas pleuré, presque pas. Quelques gouttes de désespoir dans l'océan de chagrin, c'est tout ce que j'ai su pleuvoir. Enfermer le reste sous les paupières pour nourrir les nuages et te souhaiter bon vent.
Merci, ben on va le prendre, ce vent. Très belle sensibilité, effectivement. Très belle poésie. Effectivement, des fois, on se perd de vue, soi-même. Je trouve ça très intéressant. Bon, on va achever l'émission avec Henri Michaud. Alors, lui, il nous propose de dessiner l'écoulement du temps. C'est un sacré travail, je trouve. Explication. Au lieu d'une vision à l'exclusion des autres, j'eusse voulu dessiner les moments qui, bout à bout, font la vie. Donner à voir la phrase intérieure, la phrase sans mots, corde qui indéfiniment se déroule sinueuse et, dans l'intime, accompagne tout ce qui se présente du dehors comme du dedans. Je voulais dessiner la conscience d'exister et l'écoulement du temps. Comment se tâte le pouls ? Ou encore en plus restreint ce qui apparaît lorsque le soir venu repasse, en plus court et en sourdine, le film impressionné qu'a subi le jour. Dessin cinématique. Je tenais au mien, certes, mais combien j'aurais eu plaisir à un tracé fait par d'autres que moi, à le parcourir comme une merveilleuse ficelle à nœuds et à secrets, où j'aurais eu leur vie à lire et tenu en main leur parcours. Mon film à moi n'était guère plus qu'une ligne ou deux ou trois, faisant par-ci, par-là, rencontre de quelques autres, faisant buisson ici, enlacement là, plus loin, livrant bataille, se roulant en pelote, où sentiments et monuments mêlés naturellement, se dressant fierté, orgueil, ou château, ou tour, qu'on pouvait voir, qu'il me semblait qu'on aurait dû voir, mais qu'à vrai dire, presque personne ne voyait. Ainsi s'achève notre émission. Merci de votre écoute. Je précise que cette émission est diffusée le mardi soir à 22h, rediffusée le dimanche à 17h. Et bien sûr, on peut consulter cette émission en podcast. Et je tiens à dire que nous avons des bons retours, ce qui montre que vous êtes fidèles quand même à cette émission. Et nous vous en remercions. Merci de rester à l'écoute de nos programmes. On va se quitter, allez, par un classique du genre, Dire Straits, Money for Nothing. We'll be right back.
working in the cameraman. And we could have some. And he's up there. What's that? Hawaiian noises. He's banging on the bongos like a chimpanzee. Oh, that ain't working. That's the way you do it. Get your money for nothing. Get your chicks for free. We got to install a microwave oven. Custom kitchen delivery. Working, that's the way you do it. You play the guitar on the MTV. That ain't working, that's the way you do it. Money for nothing and your chicks for free. Money for nothing.
Paysage vibratoire. L'émission de poésie en habit de musique. Un moment radiophonique sensible et jubilatoire proposé par CFM Radio.